RCF. Perla Servan-Schreiber, bonjour et merci de nous accueillir chez vous, ici à Paris. Alors, je savais que le blanc était votre couleur de prédilection et effectivement, dans votre salon, salle à manger, où nous nous sommes installés, tout est blanc, du sol au plafond. Vous êtes toutes vêtues de blanc et vos cheveux blancs, eh bien, vous ne les cachez pas, vous les portez joyeusement. Vous qui assumez pleinement votre âge, 80 ans, et qui partageait depuis quelques années dans vos livres, vos essais, la joie de bien vieillir. Vous avez travaillé pendant des années pour des magazines féminins, comme Elle et Marie-Claire. Et puis en 1998, vous avez cofondé, avec votre époux Jean-Louis Servan-Schreiber, un magazine qui a rencontré très vite un énorme succès, Psychologie Magazine. Vous êtes également l'autrice de plusieurs livres de cuisine, l'une de vos passions, et également d'essais sur l'art de bien vieillir. Et dans votre nouveau livre, Intimité au fil des jours, que vous publiez aux éditions de La Martinière, vous nous offrez de mieux connaître la femme que vous êtes, sensible à la poésie, à la vie familiale, à l'intériorité, à l'amitié. Par petites touches, on y glane des phrases inspirantes pour poursuivre le chemin de la vie, et notamment celle-ci. Le cadeau de la vieillesse, c'est la liberté. Alors, je vous cache pas que j'ai été étonné. C'est une phrase presque provocante, tant on s'imagine que vieillir, c'est décliner et donc perdre en liberté. Comment comprendre cette phrase?
C'est quelque chose que j'ai ressenti de manière très puissante et évidente. Peut-être parce que la liberté a toujours été une obsession dans ma vie depuis l'âge de 14 ans. Mais lorsque j'ai titré mon livre « Les promesses de l'âge, une nouvelle liberté », c'était très nouveau et je suis enchantée, très enchantée que ce mot soit désormais repris par beaucoup de personnes qui s'intéressent ou qui écrivent sur l'âge. Et surtout, j'ai reçu beaucoup d'échos de lectrices et de lecteurs qui témoignaient de cette réalité méconnue. Alors, entendons-nous bien, je ne parle que de personnes qui vieillissent en bonne santé. Alors, j'ai 80 ans et j'ai ressenti ce sentiment de liberté depuis déjà une petite dizaine d'années.
Vous insistez beaucoup sur ce fait. Vous adressez à des personnes qui vieillissent en bonne santé, parce que quand on vieillit malade, c'est tout autre chose.
Deux sujets différents, exactement. C'est un autre sujet dont j'ignore tout, et j'ai de la chance à ce jour, mais je parle uniquement de celles qui vieillissent en bonne santé, et nous sommes, il faut reconnaître, de plus en plus nombreux, et surtout nombreuses, comme vous savez.
Mais la liberté, vous venez de le dire, j'ai l'impression que vous l'avez toujours recherchée, y compris quand vous étiez cette jeune fille juive séfarade vivant au Maroc, vivant à Fès. Oui. Vous étiez pourtant dans un milieu plutôt, on va dire, traditionnel. Je crois que vous êtes une famille de filles de rabbins. Tous vos ancêtres étaient des rabbins.
Oui, c'est une très, très belle et très grande famille que la mienne. Mon nom est Danan, D-A-N-A-N. Et c'est une très belle famille installée au Maroc depuis le 15e siècle, depuis que Isabelle la catholique nous a chassés, comme beaucoup d'autres d'Espagne. Et alors là, évidemment, tout le bassin méditerranéen, comme vous savez, les gens sont allés s'installer là où ils ont pu. Et dans mes ancêtres, c'était le Maroc et c'était Fès. Donc, il y a toujours dans une éducation, des bons côtés, puis des côtés un peu plus difficiles à vivre quand on est enfant. Et celui qui m'a été difficile à vivre, c'était cette absence totale de liberté. En gros, nous avions le droit et le devoir d'aller à l'école et bien sûr d'obtenir de très bonnes notes. Et point final.
puis vous viviez dans le Mella, hein, le quartier réservé aux Juifs.
C'était même pas le quartier réservé, parce que là, il y aurait eu au moins, je ne sais pas, mais une animation, enfin voilà. Mais nous vivions à l'extérieur et en bordure de ce quartier. Alors, vous me direz que c'est presque la même chose, mais pas du tout. Ça veut dire que déjà, pour y aller, il me fallait une autorisation. Donc, je ne pouvais aller sans autorisation aucune que à l'école et revenir.
Mais alors, Perla Servan-Schreiber, j'aimerais comprendre, adolescente, vous rêvez de liberté,
oui.
Et vous allez la prendre, hein, vous allez
oui.
partir, je crois,
oui.
à 17 ans, venir en France, oui. mais avant...
Non, à 14 ans, je quitte mes parents, et en France seulement à 23 ans.
Ouais. Oui. Mais vous allez vivre avec vos grands-parents.
Oui,
et ça,
que
vous
j'ai
êtes,
adoré.
Vous êtes très marqué par ses grands-parents.
Oui.
C'était les grands-parents... Maternelle,
oui, je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents paternels, simplement parce qu'ils sont morts avant ma naissance, mais ces grands-parents maternels ont été pour moi mais la lumière et la joie de mon enfance, de mon adolescence, et ensuite la chance de ma vie. C'est comme ça qu'un événement qui aurait pu être dramatique pour moi a été une opportunité extraordinaire.
Donc vous avez vécu jeune avec des personnes âgées.
Oui, et j'ai adoré. J'ai adoré ces
vieux.
C'est
une clé pour comprendre
ah, oui.
votre rapport avec les vieux, comme
ah,
vous dites,
oui.
vous osez utiliser le,
ah,
le
oui.
mot.
Non, mais j'aime ce mot, j'aimerais tellement le faire aimer, et que, pour une fois, on appelle les choses par leur nom. Vous vous rendez compte de ne pas nommer quelque chose du vrai nom, c'est quand même ne pas le reconnaître, et c'est le vivre mal. Donc, je suis une militante du mot « vieux » et « vieille », hein, donc y compris au féminin, et j'aime ce mot parce que j'ai adoré ce vieux couple qu'étaient mes grands-parents.
Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné d'essentiel, transmis d'essentiel, pour reprendre ce mot que vous aimez aussi ?
Une bienveillance extraordinaire. Et finalement, un esprit bienveillant, et bien que... obéissant eux-mêmes à des règles très précises, bien sûr, de comportement, de vie, de c'est normal, tout à fait normal. Curieusement, ça ne m'a jamais pesé chez eux. Parce qu'il y avait d'abord beaucoup d'amour, n'oublions pas que c'est quand même l'essentiel, et aussi une immense bienveillance. Donc, il n'y avait pas de privation pour moi. Chez ces personnes-là. Je n'étais pas privée de liberté. J'aimais vivre à leur rythme comme ils aimaient, eux, et ça me convenait.
Pourquoi alors ce besoin de liberté, Perla Servan-Schreiber, ce besoin de partir ? Parce que vous avez passé cette période de l'adolescence, la 14,
oui,
15,
oui,
16
oui,
ans,
oui, là-bas.
Avec eux, là-bas, au Maroc.
Oui, au lycée, bien sûr, je suis allée au lycée là-bas.
Donc, visiblement, vous étiez très, très heureuse avec,
très
avec
heureuse.
Eux.
Ouais. J'étais heureuse avec eux. J'étais heureuse dans ce lycée qui était un tout petit lycée où, en fait, c'était curieux, mais ce lycée était connu pour recueillir à peu près tous les voyous du Maroc qui étaient renvoyés de tous les autres lycées.
Et vous étiez à Casablanca à ce moment-là?
Non, c'est à côté de Casablanca. C'était à ce qui s'appelait Mazagan et qui, à 100 kilomètres. Et qui s'appelle aujourd'hui El Jadida. En fait, depuis l'indépendance. Donc, j'étais là. Et ce lycée était, voilà, une espèce aussi, une bouffée de joie et de liberté. C'est là que je me suis initiée à l'information politique avec des amis que j'ai, voilà, qui sont devenus amis, voilà, des gens du lycée qui étaient, vous savez, à l'époque, c'était quand même la guerre d'Algérie, qui comptait beaucoup et chaque jour. Et c'est là que je me suis initiée à l'intérêt de la politique et que je garde, voilà, très, très vif encore aujourd'hui, bien sûr. Et également, c'est là que, grâce à eux, j'ai pu commencer à lire Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. C'était un groupe de garçons d'ailleurs surtout, hein. Je me souviens pas de filles. J'étais la seule fille dans cette petite bande. Et c'était un éveil extraordinaire à des paroles de liberté.
Visage, l'expression de l'être.
Perla Servan-Schreiber, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui à la femme de 80 ans de ce que vous avez reçu dans ce milieu juif séfarade au Maroc des années 60.
Il y a l'amour des rituels. Il y a les rituels qui continuent évidemment à marquer le déroulement d'une année et qui sont les fêtes juives que je respecte, que je fête, parce que c'est vraiment une fête. J'ai, hélas, je suis totalement inculte puisque je ne lis pas l'hébreu et je ne sais rien de ce qui est raconté, en tout cas dans cette langue. Ce qui fait que j'ai tout de suite installé, y compris voilà, quand je me suis mariée avec Jean-Louis, pour qui ces traditions n'existaient pas au sein de sa famille, parce que c'était une famille extrêmement laïque.
Pourtant juive.
Et pourtant juive, par le père, par le père, bien sûr. Mais ils ont été élevés beaucoup plus de par justement l'époque de guerre. Ils ont été élevés totalement dans la tradition catholique de leur mère. Et ça les a sauvés quand même pendant la guerre, hein, ça il faut reconnaître.
Et c'est vous qui avez apporté une pratique du judaïsme dans la
famille
Sarron
Schreiber. C'est moi qui ai apporté ça et Jean-Louis a été merveilleux parce que pour lui c'était très nouveau dans sa vie et il a été évidemment ravi d'y contribuer. Et dès que nous avons eu ensemble des petits-enfants, évidemment ça a pris un tout autre sens et pour eux, ils ont maintenant ils sont trentenaires pour une partie d'entre eux et pour eux ça compte aussi.
Donc vous fêtez les grandes fêtes juives, mais est-ce que vous pratiquez
non,
Pessah, est-ce que
Ah si, c'est ça. À Pessah,
par exemple. Pardon, mais je voulais dire le Shabbat.
Ah non, alors le Shabbat, je ne sais pas, hélas, je ne sais pas pourquoi le Shabbat n'a pas, voilà, pas survécu, si je puis dire.
Donc ce sont les grandes fêtes juives.
Ce sont les grandes fêtes que je fête.
Voilà. Mais le sens du rituel, des rituels,
ah oui, ça
je sais
alors,
que c'est très important
très
pour vous,
important,
vous en parlez dans votre
très
livre.
Très important, vraiment, et en plus j'ai passé 34 ans avec cet homme merveilleux qu'est Jean-Louis et qui lui-même était un être très ritualisé. Alors je comprends que ça ait pu peser... je ne sais pas moi, ses enfants ou peut-être voilà sa première femme ou les femmes voilà avec qui il a vécu, mais moi c'était merveilleux pour moi de vivre à côté de quelqu'un qui était ritualisé.
Mais qu'est-ce que ça apporte, ce que vous appelez les rituels? Parce que pas besoin d'être juif pour pratiquer les rituels.
Ah non, non,
vous
bah, du tout d'ailleurs.
Pour tout le monde.
Oui, parce que mes rituels à moi, ceux que j'ai créés, si je puis dire, enfin entre guillemets, hein, c'est un bien grand mot. Ce qui rythme ma vie aujourd'hui, c'est tout simplement une méditation de 10 minutes le matin, vous voyez, qui est, en tout cas pour moi, qui n'a aucun caractère religieux ni confessionnel, mais un caractère de bien-être et de démarrage d'une journée avec un esprit libre, encore une fois, et une attention particulière qui me permet dans la journée de garder cette attention aux autres qui est fondamentale dans ma vie.
Et vous avez des rituels avec vos amis, puisque l'amitié est aussi un thème qui vous est cher.
Oui, nous avons des rituels avec mes amis qui en ont d'ailleurs initié ces dernières années encore d'autres. D'autres types de rituels, voilà, il y en a un que j'aime beaucoup citer parce que c'est totalement inventé par une de mes très jeunes amies, car... Une des caractéristiques, voilà, de ma vieillesse et de la chance que j'ai de vieillir comme ça, c'est que plus de la moitié de mes amis ont la moitié de mon âge. Et c'est ce pourquoi je suis une militante de l'intergénérationnel pour mieux vieillir. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi fondamental, fondamental.
Et donc le rituel avec cette amie.
Alors elle a inventé ce qu'elle a appelé un magic lunch. C'est-à-dire que tous les, disons, 3-4 mois, elle invite, elle repère à peu près 6 personnes, voilà, dont elle pense qu'ils sont suffisamment intéressants pour me les présenter, pour voilà, pour rencontrer, et pour que nous nous rencontrions. Et elle débarque, on fixe la date, elle débarque donc avec 6 personnes dont je connais tout juste le nom, mais je ne sais pas grand-chose d'eux, et... nous déjeunons à 8 personnes ici et j'ai
cette table ronde
et j'ai là et j'ai ce cadeau merveilleux qui sont de rencontrer 6 personnes de milieux totalement différents, d'âges différents, avec certains et certaines d'entre eux ou d'entre elles se nouent quelque chose et nous revoyons ensuite en tête à tête avec d'autres pas, mais c'est un moment comme ça tout neuf qui est extraordinairement stimulant.
C'est un beau cadeau qu'elle vous fait.
Très beau
un beau rituel et un beau cadeau.
Très beau cadeau. Je le suggère à d'autres personnes, vraiment.
Père Lasserre-Schreiber, il y a beaucoup de thèmes que l'on peut aborder avec vous, que l'on trouve dans votre dernier livre, Intimité au fil des jours, mais aussi sur votre site internet. Beaucoup de thèmes qui vous font vivre, qui font que la femme de 80 ans qui est devant moi est pétillante de vie, de curiosité. J'aimerais qu'on parle du thème de la femme déjà, être femme. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être femme, vous qui avez été femme libre? Puisqu'on parlait de la liberté femme libre dans les années 70, vous avez connu ce grand élan de liberté
comment
pour les femmes.
Et comment?
Et puis en même temps, femme aujourd'hui. Donc, la féminité, pour vous, c'est quelque chose qui est important. Vous dites même dans votre livre, la féminité est une pièce manquante au combat des femmes d'aujourd'hui.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous dites ça?
Je trouve que c'est une immense chance d'être femme. Je n'ai jamais envié le sort des hommes, c'est-à-dire que je n'ai jamais pris pour modèle un homme. J'ai eu la chance de vivre avec un homme magnifique. Il était pleinement homme à sa façon. J'ai été pleinement femme à la mienne. Et c'est précisément de cette rencontre avec des différences et des valeurs partagées, mais de grandes différences de comportement et l'observation, justement, de voir vivre quelqu'un de profondément différent de moi.
Oui, mais vous avez pris votre temps, Perla.
Oui, bien sûr.
Vous êtes mariée avec lui, vous aviez quoi, 43 ans
43 ans, bien
donc,
sûr.
Donc, vous avez
même
été
avant,
femme, on va dire, femme libre jusqu'à 43 ans.
Tout de suite, mais je me suis sentie libre tout, même pendant, pendant que j'étais mariée. J'ai toujours eu ce sentiment de liberté. Alors, quand on dit un sentiment de liberté, les gens peuvent imaginer faire à peu près n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment.
C'est pas ça
et,
chez vous.
Et c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est juste être la personne que je suis. Voilà. Être la personne que je suis
c'est pas
et
facile,
respecter
attendez, c'est...
la personne qu'il est.
C'est pas facile d'être voilà. La personne que je suis, comme
mais
vous dites.
Mais c'est pas facile.
C'est une quête, non ?
C'est une quête, parce que c'est quotidien, bien sûr, hein. Je veux dire, on se construit tous les jours et on se manifeste également dans ce que l'on est tous les jours. Mais il y a une richesse dans cette différence qui est pour moi fondamentale, et c'est d'ailleurs le fondement de l'humanité, la différence entre les hommes et les femmes. Il y a, dans ma vie de femme, j'ai, comme vous venez très justement de le rappeler, traversé quand même la période de 68, hein, de 68 art, qui est restée dans ma mémoire comme une espèce de fête extraordinaire, et qui a quand même bouleversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au plan de la société et du rapport entre les hommes et les femmes.
Bénéfiquement ou pas, selon vous ?
Ah, bénéfiquement. Très largement bénéfiquement, mais ne serait-ce que la contraception qui a été quand même, je veux dire, la révolution la plus fondamentale. On n'en parle plus du tout aujourd'hui parce qu'il y a eu quand même au moins deux générations qui sont nées avec ça dans la poche, vous voyez. Tandis que moi, j'ai commencé ma vie de très jeune femme sans et j'ai eu la chance ensuite vraiment de vivre ma vie de femme avec. La contraception, c'est quand même, voilà, on a tendance un petit peu à l'oublier, mais c'est quand même un acquis pour moi dans l'ordre de cette liberté que nous évoquons depuis le début de notre rencontre, qui est fondamentale, absolument fondamentale. Mais il n'y avait pas ce modèle pour moi masculin à prendre en exemple.
Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous n'aviez pratiquement au lycée que des copains,
oui.
Que des garçons. Oui. Vous étiez qu'avec des garçons
oui.
Pour discuter
oui.
Politique.
Oui.
Et en même temps, arrivé en France, vous avez fait des études de droit, sciences politiques, et puis vous avez travaillé assez rapidement dans monde de la mode,
de la presse et de la publicité. Bien sûr.
Et notamment pour des revues féminines.
Oui, elle et Marie-Claire. Ouais. Oui.
Donc, vous avez été aussi immergée dans le monde féminin et dans ce courant féministe de l'époque.
Ah oui, très.
Vous avez baigné là-dedans.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous qu'être une vraie féministe?
Je crois qu'on est tous, on est toutes, si on nous demande, voilà, à nous qui nous disons féministes, des définitions différentes. C'est même pas une définition, c'est un mode de vie complètement différent. Je crois que ce qui nous différencie, c'est le fait, et en tout cas pour ma génération que l'on a appelée les baby boomers et qui ont effectivement été incroyablement privilégiés, et par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, je le vois avec mes petits-enfants. Vraiment, nous, on a traversé une période dorée, absolument dorée. Mais il y a la grande différence, à mon avis, c'est entre les universalistes, dont je suis, et celles pour qui le modèle masculin est dominant. Moi, je me suis toujours définie, transformée, évoluée, avancée, en étant femme jusqu'au bout des ongles. C'est quelque chose qui m'importe énormément, que j'aime. J'aime énormément l'esthétique d'une femme, tout comme j'aime l'esthétique d'un homme. Et le fait de m'habiller en pantalon n'a pas du tout pour moi, en tout cas pas du tout, de référence masculine, même si au départ, évidemment, c'est quand même un vêtement masculin. Mais ceci est très au-delà de la manière de s'habiller ou de se comporter. Mais j'ai toujours trouvé, puisque j'ai vécu dans des magazines, vous venez de le rappeler, de mode, mais des magazines extrêmement militants dans le domaine du féminisme, et notamment à Marie-Claire, où j'ai passé 20 ans. Et là, il y avait vraiment cette erreur profonde, en tout cas à mon humble avis, qui était de vouloir effacer les traces du féminin. Et notamment, par exemple, moi qui suis une fan de faire à manger, de faire la cuisine, de nourrir, de rassembler, de partager, de considérer par exemple que le fait de faire la cuisine, c'était comme passer l'aspirateur et puis on a jeté le bébé avec l'eau du bain, que voilà, vouloir vivre en permanence avec un homme longtemps et le servir, je n'ai pas peur de ce mot. Tout comme je sers mes amies femmes quand elles viennent, ou mes petits-enfants quand ils viennent.
Vous aimez beaucoup ça, associer, faire la cuisine et servir.
Beaucoup.
Servir, vous insistez
beaucoup
là-dessus.
J'aime servir. J'aime être pleinement aux côtés avec les personnes avec lesquelles je vis ou qui passent 2 heures chez moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le dois à ma culture orientale et c'est une chance. Je remercie chaque jour le fait d'avoir eu cette culture-là. Voilà.
Alors, je reviens sur cette phrase que je vous ai relue il y a un instant. La féminité est une pièce manquante au combat des femmes d'aujourd'hui. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les femmes sont dans un combat et elles rejettent finalement leur part de féminité?
Parce que la relation avec les hommes est devenue compliquée. Le MeToo, qui n'a que 5 ans, a évidemment, et ô combien, et heureusement, et c'est formidable, on n'arrêtera pas de le dire, libéré la parole des femmes. Mais d'abord, je trouve que là, on commence un petit peu à bégayer dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est que il a posé des règles, voilà, de fonctionnement entre les hommes et les femmes, les jeunes, sous couvert de consentement, et je trouve ce mot très beau et évidemment cette réserve importante, mais il n'y a plus de spontanéité autorisée, encore une fois, dans cette relation amoureuse et ces approches amoureuses, ce qui fait que les garçons ont beaucoup de mal à se retrouver avec ces nouveaux interdits, les femmes aussi. Du coup, la rencontre pour des jeunes de 30 ans devient compliquée.
Et ça, vous le savez, parce que vous en parlez beaucoup avec vos petits-enfants et avec les jeunes qui viennent ici.
Bien sûr, qui viennent ici.
Déjeuner avec vous et se confier à vous.
Et j'entends ça, je me dis, mais j'ai eu 30 ans, j'ai eu 20 ans et j'ai jamais eu ce type de problème-là. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Alors Perla Servan-Schreiber, vous nous l'avez dit, vous avez été mariée avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Vous avez vécu 34 ans ensemble jusqu'à son décès. Oui. Ça aussi, les jeunes femmes qui viennent ici, elles vous regardent avec admiration. Mais comment on peut aimer aussi longtemps et durer dans la vie de couple? Oui. Alors quel conseil vous leur donnez pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui ont envie de durer dans la vie de couple?
Je crois qu'il y a... Comment faire le tour d'un problème comme ça? Évidemment, c'est totalement impossible, comme disait Montaigne à propos de l'amitié, mais c'est tout aussi vrai en amour, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Bien sûr qu'il y a ça aussi.
Oui, mais tout le monde rêve de rencontrer l'âme sœur, et puis et beaucoup de gens ne sont pas du tout là-dedans, et puis on voit tous les divorces.
Combien même ils le D'abord, il faut le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir une disponibilité, tout comme pour voir le premier coquelicot ou regarder la Tour Eiffel. Je veux dire, si vous adorez comme moi la Tour Eiffel et que vous passez devant sans la regarder, vous verrez pas qu'elle est en train de clignoter les fameuses 5 minutes avant l'heure. Donc, cette disponibilité-là n'existe pas puisque les gens sont désormais réellement absorbé avec ce fichu téléphone portable. Alors, il n'est pas du tout le seul responsable. Hein. Ce qui est également responsable, c'est que il me semble, et c'est ce que j'essaye de mettre en mots quand on me pose cette fameuse question « Comment durer ?» et d'ailleurs souvent aussi « Comment rencontrer ?» C'est toujours un miracle de rencontrer.
Et pourtant, aujourd'hui, il y a tous les sites de rencontres. Les jeunes utilisent beaucoup les sites de rencontres.
Oui, mais là, ils font la liste de courses. Ils cochent des cases. Or, la rencontre, c'est précisément le contraire d'une liste de courses. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, s'impose à vous. Alors, ça peut être une mauvaise rencontre et une bonne rencontre, bien sûr. Mais ça surgit dans votre vie. Vous n'aviez pas d'attente particulière pour ce profil de personne-là. Pas du tout. Donc, les sites de rencontres qui rendent, les applis qui rendent service, et je trouve que c'est un vrai service aussi, elles limitent également ce que j'appelle la rencontre, puisqu'on coche des cases. Et ça, c'est le contraire. Mais surtout, surtout pour durer, il me semble qu'il est important d'avoir un grand désir de vivre une vie avec quelqu'un, c'est-à-dire que ça devienne un projet de vie. Moi, mon projet de vie, même si j'ai eu la chance de faire des magazines, d'écrire des livres, une chance énorme, immense, eh bien, mon projet de vie, c'était Jean-Louis et notre couple. Et comme vous le savez peut-être, nous avons eu la chance de travailler en plus ensemble. Nous avons fait psychologie ensemble, nous avons fait clé ensemble.
Donc, mais justement, certains vont se dire, mais alors vous avez travaillé ensemble, vous viviez ensemble, ça paraît impensable pour certains de tenir
impensable.
Quand on est quasiment 24 heures sur 24 ensemble.
Ça paraît impensable et pour moi ça a été une grâce et pour lui aussi. Donc c'est évidemment, on est toujours unique, hein, nous les êtres humains, même à la naissance, ensuite dans le, voilà, on est un modèle unique, on le sait, notre ADN nous le dit. Mais il y a quand même le fait de se dire, mon projet majeur, ça n'est pas de réussir dans la vie, matériellement, ou mon entreprise, ou même si évidemment je fais tout pour ça, mais mon projet de vie à moi, c'est mon couple.
Donc il y a une part de volonté, le désir de durer et de prendre soin de son couple, d'entretenir son couple.
Mais oui, c'est un projet affiché, nommé, rappelé chaque jour à soi-même, vous voyez ? Voilà, je me le rappelle, et c'est dans cette perspective que je fais des choses ou que je n'en fais plus.
Je comprends mieux une phrase que vous avez dite un jour dans les interviews de vous que j'ai pu regarder pour préparer cette rencontre. Vous avez dit un jour, c'est pour le couple, hein, c'est vivre dans la joie malgré tout.
Évidemment.
C'est malgré tout qui est important.
Évidemment. Et j'irai même jusqu'au bout, puisque vous venez de le dire, Jean-Louis est décédé en 2020. Et même dans ce qui est réellement une amputation pour moi, enfin, je veux dire, la mort de Jean-Louis est pour moi une amputation totale. Donc, j'apprends à marcher sur une patte. Et je parviens à le faire, comme beaucoup d'autres, bien entendu. Je parviens à le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même dans une situation aussi difficile, la joie est possible.
Alors on se demande comment ?
La joie est possible, voilà, avec mes amis, avec mes petits-enfants, en allant, comme je l'ai fait la semaine dernière, à Beaubourg, voir Brancusi et m'émerveiller littéralement en lisant un poème de Bobin que vous connaissez bien. Donc, les occasions de se réjouir, marcher, je marche beaucoup dans Paris, je marchais aussi, et pour moi, une occasion de grande joie sans cesse, redécouvrir à chaque fois un pont de Paris est pour moi une joie merveilleuse. Pourquoi ? Parce que je suis présente à moi-même quand je traverse le pont. Voilà, j'essaye de me ramener toujours à ça. Ça ne veut pas dire que je suis pas en train de faire ma liste de courses aussi de temps en temps, bien sûr, bien entendu. Mais ces rares instants où je suis sur le pont Alexandre III et où je me dis quelle merveille ce pont, là, cet instant-là de présence est magique. Et ça, c'est de la joie pure.
Qu'est-ce qui vous a aidé le plus à surmonter le décès de l'homme de votre vie ?
Je crois d'abord que c'est des gens que j'aime et qui me font vraiment l'amitié de m'aimer, qui sont ma famille, qui sont mes deux familles formidables, parce que j'ai la chance aussi d'avoir des frères merveilleux que j'adore, avec leur famille entière, leurs épouses et leurs enfants. Et puis il y a aussi, voilà, cette deuxième famille qui est un cadeau. Et que sont les enfants de Jean-Louis et nos petits-enfants.
Je tiens à préciser, excusez-moi, je vous interromps, que vous n'avez pas eu d'enfants. Vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants.
Absolument.
Par contre, vous avez vécu avec les enfants de Jean-Louis Servan-Schreiber d'un autre mariage.
Oui.
Et donc, quand vous parlez de vos petits-enfants, ce sont les petits-enfants de Jean-Louis qui sont vos petits-enfants.
Exactement, qui sont nos petits-enfants ensemble, si je puis dire. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et faire le choix pour moi de ne pas avoir d'enfants était un choix qui allait dans le sens de cette liberté qui est une obsession dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les enfants, loin de là. Mais je n'ai pas eu besoin d'en avoir à moi. Ça fait partie d'autre chose qui me caractérise et qui est le rapport à la propriété.
Et vous arrivez à aimer vos petits-enfants, qui sont ceux de Jean-Louis, comme s'ils étaient à vous, de vous.
Ah mais je dis toujours mes petits-enfants. Alors, c'est peut-être abusif, hein, je sais pas. Mais en tout cas, je dis mes petits-enfants.
Donc, ce qui vous a le plus aidé à surmonter le décès de Jean-Louis Servan-Schreiber, c'est l'environnement, la famille, les
Bien
proches.
Bien sûr, c'est ça et mon tempérament. C'est toujours le tempérament.
C'est-à-dire votre tempérament, comment vous le définiriez, votre tempérament ?
Eh bien, écoutez, ce qui est certain, c'est qu'avec l'âge, et je peux vraiment maintenant m'exprimer au nom de l'âge, à 80 ans, ce qui domine totalement la manière dont on vieillit, si je puis dire, hein, à part la santé qui dépend que très partiellement de nous-mêmes, hein, même si on fait tout, on peut évidemment attraper n'importe quoi. Mais, eh bien, ce qui domine, c'est le tempérament. Réellement. C'est ce avec quoi on est né. Voilà.
Alors, ça veut dire qu'on n'y peut rien.
Des chromosomes.
On a ça en nous. Donc, on est quoi? Soit confiant dans la vie, soit inquiet.
Soit joyeux, soit pas, soit très soucieux, soit les deux d'ailleurs. Ça, c'est ce qui domine. Ça ne veut pas dire que tout ce que l'on fait ou ce qui se passe ne produit aucun effet. Bien entendu qu'il y a ça aussi. Mais c'est quand même comment nous sommes au fond et comment nous nous sommes également forgés, avec quel type de spiritualité ou pas. Moi, pour moi, ça a un rôle fondamental. Ce besoin de solitude, de calme, alterné avec celui de rencontres multiples, comme nous venons de l'évoquer, qui me sont précieuses et nécessaires, mais j'ai besoin de cette alternance entre les temps de parole et les temps de silence, et les temps de rencontres et les temps de solitude. J'ai beaucoup besoin de ça, et ça, ça me restaure complètement.
Visage RCF.
Vous dites, Perla Servan-Schreiber, dans votre livre Intimité, vivre, c'est prendre soin de cette triade. Corps, esprit, âme.
Et l'âme, oui.
On parle plus beaucoup de l'âme aujourd'hui.
Ben non, malheureusement.
Alors vous dites même, l'âme, ce mot évité, abandonné, n'est pas le domaine réservé des religions.
Je suis très triste que ce mot ne soit pas, enfin, sauf, voilà, quand on a le goût de la poésie, on le retrouve.
Chez François Cheng, notamment.
Et bien sûr, chez François Cheng, merveilleux.
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, l'âme ?
C'est ce qui est plus grand que moi. Et il y a quelque chose qui m'est à la fois dicté et dont je prends soin. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je ne sais pas. Alors, il faut quand même poser comme préalable le fait que j'ai la foi. Hein, donc, évidemment, ça change.
Donc, la foi dans la tradition juive.
J'ai la foi.
Vous croyez en Dieu, Adonai ?
J'ai la foi dans la tradition juive. Et comme je suis inculte, puisque, comme je vous dis, je ne connais pas les textes, je ne lis pas l'hébreu, et je le regrette, il ne tiendrait qu'à moi d'essayer de m'y mettre. Mais j'ai essayé d'apprendre l'hébreu, croyez-moi, j'étais un peu perdue quand même. Bon, mais peu importe, c'est ainsi. Mais ça dépasse complètement quelque chose qui pourrait être le caractère de me sentir juive, que je me sens totalement juive, est totalement différent encore de ce côté spirituel et ce qui est, l'âme. Vous voyez, je ne parle pas d'âme juive. Une âme, c'est juste encore une fois quelque chose qui me domine, mais que je nourris et avec laquelle j'ai un certain dialogue.
Donc les lectures que vous faites, la méditation que vous faites chaque matin,
tout ça me
participe
nourrit.
À nourrir votre âme.
Oui, y compris faire à manger.
Y compris faire à manger.
Ah, oui.
Et servir, comme on disait.
Ah, oui. Oui. Faire à manger, nourrir, c'est pour moi quelque chose de tout à fait à la fois gourmand et spirituel.
J'aimerais bien qu'on avance ensemble sur cette réflexion autour de vivre. Mais vivre, pour vous, c'est vieillir. C'est intimement vieillir, pour vous et pour nous tous, bien sûr. Mais bon, plus particulièrement pour vous qui avez avancé en âge.
Ça veut dire essayer de vivre jusqu'au bout. Oui. Voilà.
Et vous écrivez, Perla Servan-Schreiber, bien vieillir est un vrai travail.
Oui.
Et j'aimerais comprendre... Quel est ce travail de bien vieillir ?
Bah, vivre aussi, c'est un travail.
Oui, c'est un peu la même chose, non ?
Oui, aimer, c'est un travail. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire, à la portée de chacun. Et on sait qu'il y a dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de bouger, vous voyez, on sait très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui qui peut permettre, en tout cas, de mieux vivre jusqu'au bout.
Donc, prendre soin de son corps. On retrouve la triade dont nous parlions à l'instant. Corps, esprit et âme.
Oui.
Donc, il faut prendre soin de son corps.
Prendre soin de son corps et prendre soin de soi et des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, hélas, trop souvent négligé. Il y a, dans le fait de prendre soin des autres, une sorte de bénéfice personnel, voilà, de, je ne sais pas comment dire, moi, de joie, de... Je ne veux pas parler de sens, parce que j'avoue que je trouve que je suis très camusienne à cet égard, et je trouve que s'il y a bien... La vie n'a pas de sens, donc je n'essaie pas de lui en trouver un.
La vie n'a pas de sens, vous pensez
pour
ça?
Pour moi, pas du tout.
Pourtant, là, depuis que nous parlons, j'ai l'impression qu'il y a un sens qui est celui de vivre, vivre pleinement. C'est
oui,
le sens
mais
que
ça,
vous nous donnez
pas,
là jusqu'à maintenant.
Pas un sens, c'est ce que j'ai à faire sur Terre, c'est ça. Je ne dis pas du tout que ça donne du sens à ma vie, mais je dis qu'en tant qu'être vivant, ce que je me dois de faire, c'est de vivre le mieux possible et de permettre à ceux qui m'entourent de vivre le mieux possible.
Alors j'aime bien ce que vous venez de dire, prendre soin de soi et prendre soin des autres.
Ça, c'est
parce que ce que l'on retourne souvent à des gens, notamment Psychologie Magazine, que vous avez créé avec votre mari, c'est que...
Toujours soi.
Le nombrilisme. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est du nombrilisme. Et Psychologie Magazine a participé à ce nombrilisme.
Oui.
Et vous, je vous entends là, vous me dites prendre soin de soi et prendre soin des autres.
Ah oui,
il faut
pour
les
moi,
deux.
C'est fondamental pour aller le mieux possible. C'est un bénéfice que je ressens, moi. Alors, on pourrait penser que c'est parce que je suis altruiste ou... une espèce de grande âme, je ne sais pas. Mais ça me fait du bien à moi. Et c'est, comment dirais-je, cette attention que je prête aux autres, en tout cas j'essaye de le faire le plus possible. C'est assez spontané chez moi, mais il y a quand même une application à le faire. Hein. Il y a quand même à prendre des nouvelles de personnes qui comptent pour vous, même si vous n'en avez pas eu depuis un moment. Il y a, vous voyez, ce type de petite attention, le fait de s'occuper des autres. Et pour moi, c'est fondamental. Vivre le mieux possible et par conséquent, vieillir le mieux possible. Pour moi, vieillir, c'est vivre. Point. Vivre jusqu'au bout. Voilà. Il se trouve que l'âge tourne et que, bien sûr, je suis vieille, bien sûr, et j'adore, c'est pas le problème. Mais, en fait, ce que je fais, c'est que je vis. Voilà. J'essaye de vivre. J'essaye de vivre.
Vous donnez trois mots-clés, Père La Servan-Schreiber, pour parler de la vieillesse. Vous dites acceptation, adaptation et renoncement. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ces trois mots.
C'est vrai pour vivre aussi.
Alors, voilà. Oui. Tout ce qu'on dit, c'est vivre. C'est pas tout simplement vieillir.
C'est vivre.
Alors, acceptation.
Mon métier, c'est de vivre. C'est pas de vieillir.
Nous vieillissons.
Mais je vieillis, bien sûr.
Nous vieillissons, tous. Acceptation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ah, ça a été le grand mot, la grande rencontre de ma vie. Encore une. J'ai la chance d'en avoir fait un certain nombre. Mais ça, c'est, j'ai rencontré ce mot grâce à Comte Sponville, au philosophe André Comte Sponville, là qui est un ami. Et un jour, il m'a parlé d'un sage indien qui s'appelle Swami Prajnanpad, sur lequel il a écrit un petit livre merveilleux qui s'appelle « De l'autre côté du miroir ». Et ce sage, qui est mort en 1974, avait pour caractéristique d'être en plus psychanalyste.
Ce qui est assez rare en Inde.
Ce qui est quand même assez rare. Et il vivait, je ne sais plus où en Inde, pour tout vous dire, je ne sais plus. Mais il n'a bien sûr, comme tous les sages, il n'a rien écrit. Il n'a pas laissé d'écrit. Mais il a beaucoup marqué ses disciples. Et les personnes qui ont eu la chance de travailler avec lui quelques années ont, eux, écrit et rapporté ses paroles. Et ce qui était pour lui, voilà, quand on essaye de résumer une pensée, voilà, en une phrase, ce qui est toujours quand même très hasardeux, mais lui parlait vraiment de l'acceptation joyeuse de la réalité. Pour lui, c'était ça, vivre.
Donc, accepter le monde tel qu'il est.
Tel qu'il est.
S'accepter soi-même tel que nous sommes.
Oui.
Oui. Quand on parle du vieillissement, c'est pas évident, ça.
Oui, bien sûr, mais je crois que si vous ne commencez pas par accepter, vous ne pouvez pas choisir le juste chemin pour le faire le mieux possible. Et je donne toujours cet exemple, y compris de la maladie, comme une femme sur cinq, j'ai eu un cancer du sein. J'ai donc eu à rencontrer dans les services hospitaliers de sénologie, d'autres femmes, bien sûr, qui venaient aussi en consultation et qui étaient là en même temps que moi. Et j'ai été très frappée par, comment dirais-je, une sorte de mantra qui venait le plus souvent dans la bouche de ces femmes et que je peux comprendre. Hein. J'ai eu la chance d'échapper à ça. Et c'est « mais pourquoi moi ?» Pourquoi moi j'ai eu un cancer ? Cette simple phrase leur a donné moins d'énergie pour se battre très vite contre cette maladie.
Mais comment faire, Perla, pour accepter tout en se battant pour guérir ?
Mais c'est en vous battant que... Je veux dire, si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas la totalité de votre énergie pour vous battre. C'est évident.
Et donc il faut dire oui à ce qui est là,
c'est évident. Mais avez-vous le choix ? Mais avez-vous d'autres choix que celui d'accepter ? Mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est pour moi gaspiller de l'énergie. C'est pas une critique. Hein. Je comprends très bien qu'on puisse penser à ça. Hein, je comprends très bien qu'on puisse se révolter, si je puis dire. Bien sûr, on a une capacité à nous révolter, pourquoi pas. Mais dans des domaines comme ceux-là, tout ce que nous avons à faire, c'est à nous mettre en route. On a la chance de vivre en France aujourd'hui, d'être suivi, voilà, en payant rien. Et évidemment, en ayant cotisé toute sa vie, mais tout de même. Et il faut que toute son énergie soit présente avec une détermination pour y arriver.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver, au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages. Comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Adaptation, ce mot-là, pour bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est même la caractéristique de l'humanité. Si les humains n'avaient pas la capacité de s'adapter, ben, il n'y aurait plus d'humanité depuis longtemps. Donc ça, c'est vraiment ce qui est notre... je sais pas, notre outil, notre arme, je sais pas comment il faut l'appeler, évident, qui est celui de l'adaptation à des situations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient heureuses ou qu'elles soient malheureuses.
Donc ça veut dire ne pas avoir peur du changement, des changements ?
Bien sûr, bien sûr.
Parce que quand on vieillit, on n'aime pas les changements.
Pas, mais oui, mais ce que nous avons, notre ennemi dans la vie en général et en vieillissant, c'est nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Parce que s'il faut d'abord se battre contre soi-même, puis après se battre contre peu importe ce qui advient et ce qui survient dans la vie, et ça fait quand même beaucoup de gaspillage d'énergie. Et moi, j'essaye, je n'y parviens pas toujours, inutile de vous dire, mais j'essaye de garder mon énergie le mieux possible dans une perspective très précise dans ma tête et l'une après l'autre.
Et alors ce troisième mot-clé de la vieillesse, pour vous, c'est renoncement.
Oui, le renoncement a une très mauvaise réputation, tout comme l'acceptation. Parce que quand vous parlez d'acceptation à beaucoup de gens, ils entendent résignation. Mmh. Alors que moi, j'entends, je me mets en route avec toute mon énergie. Voilà ce que j'entends par acceptation. Hein? Donc, le mot
renoncement,
il a aussi une très mauvaise réputation parce que ça veut dire ben, j'ai perdu la partie. J'ai renoncé, j'ai perdu la partie. Et en fait, c'est parce que je veux gagner autre chose. Il est certain que lorsque nous rentrons dans une boulangerie, évidemment, nous nous lestons de quelques euros. Je ne sais pas combien ça coûte, une baguette. Parce que je fais mon pain, je ne l'achète pas. Donc, je ne sais pas combien coûte une baguette, mais enfin, un euro quelque chose, j'imagine. Mais vous avez une baguette en ressortant. C'est tout simplement ça, l'existence aussi. Hein. C'est vraiment ça. Il y a besoin de renoncer à quelque chose dès l'instant où on a énoncé un projet qui est pour vous essentiel et prioritaire. Tout a un prix et tout se paye. Mais quel plaisir de gagner et de réussir un projet de vie.
Mais par rapport à la vieillesse, on doit renoncer à sa jeunesse, on doit renoncer à sa beauté, on doit renoncer à son corps dynamique. C'est pas facile, ça.
Je ne sais pas pourquoi je ne les vis pas. Ça, je ne les vis pas comme un renoncement. Je ne sais pas pourquoi vous expliquez ça. C'est-à-dire que comme je suis très marquée par la notion d'acceptation, je n'ai pas le sentiment de renoncer. Évidemment, je fais de mon mieux dans ce qui est à ma portée, et encore, je suis quand même une grande flemmarde, mais je fais de mon mieux pour ne pas ressembler à une, voilà, pour ne pas être une ruine, vous voyez, ne serait-ce que pour pouvoir, moi, voilà, me regarder le matin et pouvoir me mettre en route. Il faut une énergie pour se mettre en route chaque matin. Immense, immense. Eh bien, cette énergie-là, je ne souhaite pas la gaspiller dans des chagrins qui sont, alors cela par contre, tout à fait possible, je peux très bien m'en dispenser. Vous voyez, ce chagrin de ne plus avoir ma taille de quand j'avais ni 20 ans ni 30 ans, de ne plus avoir les cheveux de quand j'avais 20 ans et 30 ans. Mais je finis par trouver que, par exemple, d'avoir des cheveux blancs, c'est une parure formidable. Et c'est vrai que je le vis comme ça.
Et alors, qui dit vieillissement, Père La Servan-Schreiber, dit approche de cette ultime réalité, qui est la mort. La seule certitude que l'on a, c'est que nous allons tous mourir. On peut apprivoiser l'idée de sa mort.
Je vais revenir sur l'acceptation. Comment ne pas accepter quelque chose qui est à peu près, je crois que c'est la seule chose que l'on sache, hein? Disons, à la naissance, même si on n'a pas encore tout à fait, on ne se soucie pas de ça à la naissance. Mais je veux dire, c'est quelque chose d'inéluctable. On ne peut pas dire qu'on est surpris, pas là, parce qu'on nous donne la vie et puis après on se rend compte à 30 ans ou à 40 ans ou à 80 ou peu importe, que finalement on va mourir. Nous le savons que nous allons mourir. Donc, il y a, je trouve, là-dedans, probablement, enfin, c'est une des choses les plus difficiles pour les humains, hein, Et c'est pour ça que la vieillesse a mauvaise réputation, c'est parce qu'elle est toujours associée à la mort. J'ai la chance, encore une fois, d'abord d'avoir 80 ans, d'avoir une culture orientale, d'avoir vécu dans un pays et dans un quartier, dans une ville de structure féodale où les gens naissaient, mouraient à la maison, où voilà, les corbillards passaient, ça faisait partie de la vie, tout comme les cortèges de voitures de mariage. Voilà, tout ça faisait partie de la vie.
La mort était intégrée à la vie.
Totalement intégrée à la vie. Et je crois que c'est ça la chance que j'ai eue. Et c'est de l'avoir vu intégrée à la vie. Il n'empêche que quand voilà, ça atteint des gens que vous aimez ou qui vous sont proches, là, c'est un drame total.
C'est autre chose. Normal. C'est plus dur, mais en fait, pour ceux qui restent que sa propre mort.
Évidemment, évidemment.
C'est intéressant. En discutant avec vous, là, en vous écoutant, je me disais, mais en fait, dans la tradition judéo-chrétienne, on parle du banquet après la mort.
Oui.
Ça doit vous plaire, ça.
C'est vrai, oui, hein? Ça me plaît.
Vous qui aimez tellement la nourriture, qui avait écrit des livres de cuisine, qui aimait servir ici autour de cette table ronde sur laquelle nous sommes pour cette interview.
Mais oui.
La mort, c'est un banquet. Ça sera un banquet, vous l'espérez?
Mais pour moi, je rêverais que, en tout cas, le jour de ma mort, ce soit une fête pour ceux qui auront, voilà, la gentillesse ou la disponibilité de m'accompagner.
Pour ceux qui seront ici, là, au moment de votre mort, vous aimeriez que ce soit une fête et qu'ils mangent,
J'adorerais que ce soit une fête, qu'ils mangent, qu'ils écoutent la musique. Je sais combien c'est difficile d'avoir le cœur à ça, à ce moment-là, mais peut-être que de penser que cette personne qui est partie le souhaitait, qu'elle a eu une belle vie, qu'elle a... c'est vrai, j'ai eu une vie formidable. J'ai pas... Il y a eu des moments très difficiles, comme pour beaucoup. Mais j'ai eu une très, 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 très jolie vie. Donc, vraiment, j'aimerais avoir une jolie mort.
Et puis, on lira des poèmes.
Ah oui.
Et notamment des poèmes de Christian Bobin.
J'aimerais lire des poèmes. J'ai déjà choisi les deux chansons que je voulais pour mon enterrement.
Ah,
voilà, qu'on écoute. Voilà, qu'on écoute des chansons. Si, si, je peux vous le dire. Pour l'instant, c'est celle-là. Je vais peut-être changer d'avis si je meurs trop tard. Je trouve que déjà la vie est très longue. Hein. Ça, c'est un peu trop longue. Mais qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi Le Paradis Blanc de Michel Berger. Et j'ai choisi de Nina Simone Sinnerman. Voilà.
Pour terminer, Père La Servan-Schreiber, vous avez des petits-enfants, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre d'essentiel à ces petits-enfants comme message? Message de vie.
La joie de vivre. Incontestablement. Alors, le goût du travail, certainement, mais la joie de vivre d'abord. Et le goût du travail.
Et ça, ça prend, ça, la joie de vivre. Ou on l'a en soi.
Et puis, je crois qu'on l'a en soi, d'abord. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est donné au départ. Mais on en fait ou on n'en fait pas quelque chose. On en fait ou on n'en fait pas quelque chose. Et la liberté, toujours. Ça, c'est mes deux petites filles. J'ai deux petites filles et 6 petits-fils. Voilà, mais les filles, ça, c'est vraiment mon mantra.
La joie de vivre.
Soyez libres, indépendantes financièrement et libres.
Merci beaucoup de votre accueil, Père La Servan-Schreiber. J'étais ravi de ce moment d'échange avec vous dans ce bel appartement tout blanc, comme vous. Et je renvoie bien sûr à votre livre, Intimité au fil des jours, que vous venez de publier aux éditions de La Martinière. Et puis, pour ceux qui le veulent, il y a vos newsletters dominicales, les newsletters dominicales de Perla. Il suffit de taper...
Good Morning Perla, ça s'appelle.
Oui. C'est ça, il faut taper www.goodmorningperla.net. Merci de votre accueil.
Merci à vous. Merci.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.